Fragments d'art sur Radio Gameuse avec nous. Je marche dans les rues d'Épinal quand soudain quelque chose m'arrête. Là, sur le 47e mur, une nouvelle fresque capte la lumière et mon regard. D'abord, je n'en distingue que les contours. Un crâne peut-être, une vanité, mais pas comme les autres. En m'approchant, je découvre que cette forme n'est faite que de bulles. Des bulles suspendues sur un fond noir, fragiles, prêtes à s'envoler. Et puis, un souffle, un murmure mécanique, celui d'un aérographe. Derrière cet instrument, l'artiste lui-même, qui me donne quelques minutes de son temps. Bonjour Temponok.
Bonjour.
Temponok, c'est un nom d'artiste qui attise quand même la curiosité. Et je sais qu'on a dû te poser la question plus d'une fois, mais qu'est-ce que ça veut dire et d'où vient ce nom d'artiste?
Alors, Temponok, c'est par rapport à mon passé graffiti. Je suis un artiste qui est issu du graffiti, comme je disais. Et comme tout bon graffeur, on a ce qu'on appelle des blases, des noms, des pseudonymes. Et le mien, c'était Tempo. Et Nock, en fait, ça correspond au nom de mon groupe de l'époque, quand j'ai commencé le graffiti. Et avec le temps, ce que j'ai fait, j'ai associé les deux pour faire un nom propre.
Ainsi donc, c'est comme ça que Temponok est né.
Tout à fait.
Et ton parcours, dis-moi, j'aimerais savoir comment du bout de ton pinceau, tu as tracé le chemin de vie qui t'a amené jusqu'ici.
Alors, pour en revenir à mon parcours, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille à la bombe depuis mes débuts sur les voies de chemin de fer en 1999. J'ai commencé très tôt le graffiti. Et par la force des rencontres et des voyages, j'ai affiné mon style pour aller vers quelque chose de beaucoup plus personnel, notamment les bulles de savon et toutes ces iridescences.
J'ai appris que tu venais de Paris, mais est-ce que ton parcours scolaire l'est tout autant ?
Non, mon parcours scolaire, il n'a pas grand-chose à voir avec la peinture. C'est plus des rencontres à l'époque du lycée, des rencontres avec d'autres passionnés de dessin sur les murs qui m'ont guidé vers là où je suis aujourd'hui.
Et quel parcours en effet, parce que tu es reconnu à l'international. Je vois parmi les nombreux endroits que tu as visités, tu as entre autres fait une fresque à Kinshasa.
Tout à fait. J'ai peint à Kinshasa, c'était en 2023. En fait, j'ai de la famille qui est là-bas. Et c'était l'occasion en même temps de rendre visite à ma famille et en même temps en profiter pour laisser une trace sur les murs là-bas.
Mais s'il y a bien un point de bascule dans ta carrière professionnelle, du moins de ce que j'ai lu, c'est l'année 2006 quand tu as été invité à Tokyo. Raconte-nous un petit peu cette aventure.
Alors, en 2006, avec mes amis justement de mon groupe NOK, nous étions trois. On a été invités par des artistes tokyoïtes, qui sont Emar, Tenga et Endek. Ces trois graffeurs nous ont invités à peindre dans un lieu qu'on appelle le Ghost Tunnel, à Tokyo. Donc nous sommes partis là-bas en avion, et effectivement, en avion, on ne peut pas emmener de bombes aérosol. Ce qui nous a porté préjudice une fois arrivés sur place, parce qu'il a fallu trouver des bombes auxquelles on n'était pas habitués. Et ce qu'il fallait savoir, c'est que ces bombes étaient beaucoup plus diluées que les bombes que nous avions en France. Donc la surprise a été de taille devant le mur. Et il a fallu jouer avec cette transparence, qui après est devenue une force pour moi.
Car en effet, cette transparence, c'est ta patte. Tu es reconnu particulièrement pour tes peintures de bulles.
Tout à fait. J'en ai fait pas mal à l'international depuis quelques temps. J'ai voyagé au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, et si je n'oublie pas d'autres... L'année dernière, j'étais aussi à Monaco pour un festival. Et l'année prochaine, j'ai encore d'autres pays à rajouter sur ma carte.
Mais dis-moi, une question me brûle les lèvres, hein, puisqu'en effet, tu es parisien et ta carrière a commencé à Paris. Je me demande si le fait d'être artiste dans la capitale puisse être un levier professionnel pour une carrière à l'international.
Je pense que ça... Il y a une plus grande visibilité, en tout cas, lorsqu'on peint dans Paris. Moi, ce pourquoi j'étais reconnu au départ, avant de faire ces grandes fresques, c'était mes peintures dans les rues de Paris. Mes peintures sauvages, en fait. Ce qui se passait, c'est que je me suis décidé tous les dimanches à partir à l'assaut des grandes avenues de Paris, tout en évitant les lieux qui étaient autorisés au street art. En fait, je me suis éloigné. J'ai préféré peindre dans des lieux complètement surexposés et de manière totalement sauvage pour pouvoir avoir une plus grande visibilité.
Et tu as pris justement ton destin d'artiste à bras le corps en allant à l'encontre de ce qui est autorisé.
Tout à fait.
Maintenant, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton processus. En effet, tu fais du street art, de l'aérographe, j'ai vu, mais j'ai aussi cru voir sur Internet quelques tableaux. Donc, est-ce que tu es sur d'autres médiums et d'autres supports ?
Je teste pas mal de médiums. Je peins aussi à l'huile, à l'acrylique. Je travaille aussi quelques résines.
Et est-ce que parmi toutes ces pratiques, tu as un support et un médium de prédilection ?
Le support de prédilection, ça reste la toile en atelier. Après, j'aime bien tester. J'ai pas dit, mais j'ai testé aussi la pastel à l'huile, qui donne des résultats assez sympathiques en termes de couleur. Et ce que je préfère, tout de même l'acrylique.
Et pourtant, tu es aussi connu pour tes peintures urbaines.
C'est deux aspects qui sont complémentaires, en fait. L'atelier sert de laboratoire pour la rue, et la rue, parfois, sert de laboratoire pour l'atelier.
Parce que, justement, une autre question qui me vient, est-ce qu'en fonction du support sur lequel tu as l'intention de peindre, ça influence le thème, les dimensions de ton rendu artistique, on va dire ?
Pour les murs, effectivement, oui. Ça influence beaucoup, et surtout la localisation du mur influence beaucoup ce qui sera représenté sur le mur. Par exemple, si le mur se trouve dans un lieu qui a une histoire particulière, une architecture particulière, je vais m'en servir dans les reflets. Mais par contre, si l'histoire est beaucoup moins intéressante, dans ce cas-là, je me tourne plus facilement vers ce que j'appelle des conglomérats de bulles, des enchevêtrements de bulles qui composent ce que je veux, en fait.
J'en ai vu des peintures de bulles que tu as fait, et en soi, ça reste un défi technique. Donc, tu as travaillé la transparence parce que tu as découvert justement cette peinture au Japon, mais il n'en demeure pas moins qu'il ne suffit pas juste de mettre une peinture légère. Il faut retranscrire déjà cet aspect sphérique 3D et aussi les reflets, les couleurs. C'est tout un défi.
C'est tout un processus, en fait, que j'ai développé avec le temps. J'ai ma technique qui a évolué en fonction de la technicité. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est je travaille d'abord ce qu'on appelle les valeurs, c'est-à-dire en noir et blanc, juste en noir et blanc au départ, et ensuite je mets la couleur. Et ça me permet justement de ne pas être trop perturbé par les couleurs, les reliefs. En fait, je travaille vraiment par étapes.
Et tu as parlé des reflets, justement. Ça fait partie aussi des quelques fresques que j'ai vues. C'est un défi de taille aussi de recréer un reflet de tes bulles sur une surface plane et opaque.
Ouais, c'est un défi. C'est un challenge que j'aime bien relever en fonction de, comme je disais tout à l'heure, du lieu où se trouve le mur. Et de l'histoire, surtout, de ce lieu.
Donc, en fonction de ça, ça influence les thématiques que tu abordes, parce que même si tu as ta ligne directrice artistique, on va y revenir, ça, effectivement, le lieu, le contexte, a aussi un impact assez fort sur ton rendu. C'est pas juste tu peins des bulles crânes, parce que tu as envie de peindre des bulles crânes, ça va bien au-delà de ça.
Parfois, quand je peins les reflets, j'essaie plus de saisir un lieu, un instant donné, en fait. Un instant T. J'essaie de capturer le temps, en fait, simplement.
Et parmi les nombreux supports que tu as utilisés pour peindre, il y en a un aussi qui m'a marquée, c'est un violon avec un fond, type camouflage militaire et quelques bulles par-dessus. Tu en as fait beaucoup des instruments ?
Non, c'était la première fois que je travaillais un instrument. Et c'est un instrument qui a une histoire particulière. C'est un instrument de famille, qui a été, c'est un instrument qui a été légué, qui m'a été légué. Et du coup, j'ai voulu travailler quelque chose dessus d'assez personnel et représenter ce qui me passait par la tête à ce moment-là. C'est un peu l'idée avec ce motif militaire, c'est un contraste. C'est un contraste, je crois que si je me souviens bien, je l'ai appelé Requiem, je crois. C'était un violon qui avait du vécu, donc qui était très très abîmé. Et je suis passé par toute une phase de restauration avant de pouvoir le peindre et lui donner une nouvelle vie. Et c'est un violon qui a... Pour la petite histoire, c'est un violon qui vient de ma belle famille. Et c'est des personnes qui ont connu la guerre. D'où ce petit clin d'œil à ce camouflage et à toutes ces bulles éphémères qui rappellent la vacuité de la vie.
La fragilité de la vie, tu as parlé de militaires, j'imagine les temps de guerre et toutes les victimes où tout peut s'arrêter du jour au lendemain, d'un coup avec une balle, une bombe, que voilà, d'un coup, ça disparaît et comme une bulle, ça a existé, ça n'existe malheureusement plus.
Ouais, tout à fait. Et c'était un peu... Il y avait un petit côté aussi décalé à retrouver un motif militaire sur un instrument qui est destiné à apporter de la joie, simplement. Et je trouvais ce contraste très intéressant.
Oui, parce que justement, le temps, l'instantané, le memento mori, c'est ça qui fait ton identité. Raconte-moi un petit peu ce qui t'a mené à porter ce message.
C'est un message universel, de base, et c'est quelque chose qui me parlait à moi, et qui, je pense, parle à beaucoup de personnes. Et comme je ne peins que ce que j'ai envie de peindre, c'est pour ça que je me suis tourné vers cette voie.
Vers le memento mori, car après tout, nous sommes tous égaux face à la fin de nos vies. Et d'ailleurs, je me demande, vu que ça évoque un petit peu les vanités, tu as, je suppose, quelques inspirations ou quelques artistes qui te fascinent. J'avais trouvé, entre autres, les artistes Sébastien Stoskopf, donc qui est peintre flamand, du XVIIe siècle, spécialisé dans les vanités, justement, et Jiri Georg Dokoupil, qui lui est artiste visuel contemporain, qui est centré sur la transparence dans la peinture provoquée par l'éclat des bulles. Est-ce que ces deux artistes, déjà, ont un impact ou une influence sur ton travail ?
C'est les artistes qui ont une influence sur mon travail au départ. Quand j'ai commencé il y a quelques années, c'est des artistes pour lesquels j'observais beaucoup le travail. Mais aujourd'hui, je me suis complètement détaché. J'avais des références au départ. Et puis, de ces références, je me suis fait ma propre mixture pour aujourd'hui la développer de manière beaucoup plus personnelle.
Oui, tu t'es forgé ton identité et tu as pris ton envol de tes propres ailes avec ton propre message.
Exactement.
Là, pour le mur, pour te lancer, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu t'es juste dit « tu vas peindre des bulles comme ça » ou est-ce que tu as fait quelques croquis préparatoires ? Parce que je vois que tu as différents types de bulles crâne. Donc comment, spécifiquement pour le mur, ça s'est décidé ?
En fait, j'ai pas mal de croquis au départ que j'avais réalisé pour différents projets. Et ce croquis-là, j'ai mis de côté parce que le format correspondait bien au format du mur d'Épinal. Donc, par rapport au processus de réalisation, j'ai commencé d'abord par le fond noir, sur lequel j'ai tracé, comme je disais tout à l'heure, les valeurs. Je pars toujours du plus foncé, du gris foncé, puis je remonte avec des gris de plus en plus clairs, pour finir avec du blanc. Et ensuite, je passe aux couleurs. Donc, l'étape des couleurs, c'est ce que je vais réaliser demain pour le vernissage.
Vernissage qui a lieu le vendredi 7 octobre à 18h. Si on a envie d'aller voir ton travail, hein, un petit peu plus largement, en effet, tu as un compte Instagram, Tempo Noc, sur lequel tu postes, tout simplement, tous tes travaux. Il y a justement une multitude de représentations de bulles, donc des bulles, des amas de bulles, des bulles tout court, des bulles crânes, sur fond noir, sur fond coloré, il y a un petit peu de tout. Comment tu peux expliquer que même si tes œuvres se ressemblent, elles ne se ressemblent pas pour autant ?
C'est assez compliqué au départ de travailler sur un même sujet et de pouvoir rester, garder une fraîcheur. Et c'est un exercice que je travaille en permanence en faisant des recherches aussi bien photographiques ou alors sur papier. Je travaille beaucoup sur papier noir pour avoir ce contraste et je travaille au crayon blanc en fait. Ça me permet de toujours pouvoir me renouveler et de pas rester sur des acquis ou sur des choses qui sont attendues.
Donc tu essayes de surprendre, tout simplement.
Exactement.
Et on en vient justement au mur, ce que tu proposes. Alors là, à l'heure actuelle où on enregistre, je vois un immense fond noir avec un amas de bulles. Et justement de cet amas se dessine un crâne. Et je crois savoir qu'il n'est pas encore fini. Raconte-moi un petit peu tout ça. Et oui, d'ailleurs, tu m'as fait une petite remarque en off. Ce n'est pas un aérographe que tu utilises. Mais qu'est-ce que c'est donc? Surtout, comment ça s'appelle?
Alors, pour les grands murs, j'utilise simplement des bombes aérosol. C'est l'outil le plus polyvalent et le plus pratique pour tout type de support. C'est l'outil qui me vient de mon passé graffiti. Et à la différence de l'aérographe, qui est beaucoup plus petit, à la bombe, on s'attaque à des surfaces beaucoup plus grandes. Et l'aérographe, c'est pour des choses beaucoup plus minutieuses, comme par exemple sur des toiles. Ou pour du maquillage, par exemple. Il y a des personnes qui utilisent l'aérographe pour du maquillage ou pour peindre des petites figurines.
Eh bien, merci beaucoup pour cette correction, Tempo Noc. On en apprend tous les jours. Et donc, tu travailles avec une bombe en aérosol. Il y a du noir, du blanc, mais je crois qu'il y aura un peu plus. Il y aura de la couleur.
Oui, pour l'instant, j'ai fini la première partie. Donc, j'ai placé mon motif en noir et blanc. J'ai placé tous les volumes. Et à partir de demain, je vais travailler comme on dit par glacis. Des glacis, en fait, c'est des couches de peinture très, très diluées, très translucides. Et là, j'utilise des bombes aérosols particulières qui ont cette faculté d'être beaucoup plus diluées et qui permettent d'ajouter les couleurs par couche tout en gardant le relief du noir et blanc.
Oui, parce qu'on la rappelle, hein, les bombes aérosols avec lesquelles tu travaillais avant, tu n'en avais pas trouvé quand tu étais au Japon, mais ces bombes aérosols que tu avais au Japon, qui étaient quand même beaucoup plus translucides, beaucoup plus fines, on les trouve quand même ici en France ?
C'est la marque qu'il y avait au Japon à l'époque, c'était une marque de grande distribution qui n'était pas adaptée au graffiti. Et aujourd'hui, dans le monde du graffiti, il y a des marques qui sont spécialisées sur différentes niches techniques, aussi bien les bombes transparentes que les bombes à l'eau, par exemple, pour pouvoir peindre avec les enfants, que les bombes métallisées. Maintenant, il y a toute une diversité de bombes qui permet à tout un chacun de trouver son bonheur.
Revenons-en au mur. Notre précédent artiste Dino Voodoo, à qui on fait un coucou, présentait dans un espace très en aplat la première case de sa BD. Et toi, tu proposes justement autre chose, un Memento Mori. Est-ce que ce Memento Mori, en particulier sur le 47e mur d'Épinal, a une histoire en particulier ?
Je pense que c'est une évolution des Memento Mori que je réalise depuis pas mal d'années. Au départ, c'était des crânes de profil assez stylisés, très simples. Et je travaillais beaucoup sur le reflet. Et aujourd'hui, j'essaie justement de complexifier la chose avec des amas. Et en même temps, ça donne encore plus de force, je trouve. Et par rapport à ce mur-là, c'est mon dernier mur de l'année. De l'année civile. À partir de celui-là, après, je vais être en atelier jusqu'au mois de janvier. Donc c'était l'occasion pour moi de finir avec mon thème de prédilection.
Ton thème de prédilection qui, je le rappelle, hein, est un thème quand même assez présent dans les peintures de la Renaissance, ou en tout cas du XVIIe siècle, pardon, les vanités, les natures mortes, en particulier les vanités, qui nous rappellent justement la vacuité de la vie et son caractère très éphémère. Et les bulles, justement, c'est encore plus éphémère, c'est encore plus fragile.
En fait, les bulles font partie de tout un ensemble qu'on appelle vanité aussi. C'est-à-dire, dans cet ensemble, on retrouve les crânes, symbole de la mort, en fait, et de la vie éphémère. Ce symbole, on retrouve aussi avec les bulles de savon. Sur certaines peintures de cette époque, on retrouve, par exemple, des enfants qui jouent avec des bulles de savon. Et dans ces tableaux-là, ces bulles font référence à la vacuité. On a aussi les fleurs, et on a aussi les bougies. Les bougies qui rappellent aussi le côté éphémère. Donc ce sont quatre éléments qui font partie des vanités.
Et tu fais une synthèse avec tout ça, avec les crânes, les bulles, la couleur pour les fleurs et la bougie, la lumière. Justement, c'est toute une synthèse. Je ne sais pas si c'était volontaire ou même conscient de ta part.
C'est assez conscient. Bah pour exemple, sur toile, j'ai fait pas mal de vanités. Donc des vanités, des crânes sur une base de bulles de savon. Et ces crânes, je leur donne toujours des noms de fleurs. Et ça permet en fait de lier le tout de manière synthétique.
On sait que le langage des fleurs est assez symbolique. Donc est-ce que le choix aussi de ces noms de fleurs est symbolique ou juste parce que une fleur reste une fleur après tout?
On peut dire qu'une fleur reste une fleur, mais j'essaye de me renseigner avant, quand je cherche des noms de fleurs, pour qu'il y ait un lien contextuel avec la vanité sur laquelle je travaille.
Et donc, pour ce 47e mur qui est en exposition du 7 novembre 2025 au 3 mars 2026 à Épinal, qui est d'ailleurs ton dernier mur de l'année 2025, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
On peut me souhaiter encore plus de projets et encore plus de voyages. Parce que les projets et les voyages vont souvent de pair. C'est une chance aujourd'hui de pouvoir allier ces deux facettes et de découvrir, de faire des rencontres, simplement.
Car après tout, les rencontres, ce sont des rencontres qui t'ont mené au street art. C'est l'invitation au Japon qui t'a mené à cette technique de peinture. Donc encore une fois, des rencontres qui te font évoluer et d'autres qui peut-être continueront à faire évoluer ta pratique.
En tout cas, les rencontres sont enrichissantes.
J'en profite pour rappeler aux auditeurs qu'on peut toujours faire un tour sur ton compte Insta Temponok, T-E-M-P-O-N-O-K. Et en plus de ça, on peut même trouver sur internet un site de merchandising, je crois.
J'ai un site personnel sur lequel je partage aussi bien mes créations sur mur que sur toile. Et j'ai une partie shop sur laquelle je mets une fois par mois. En général, c'est toujours le premier samedi du mois, à heure fixe, à 11h. Je mets une œuvre que je réalise, une œuvre de petite taille. Qui peut s'envoyer facilement et ça permet aux gens d'avoir un petit morceau de Temponok chez eux.
Eh bien, Temponok, je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite de très beaux projets, de belles créations et je te remercie très sincèrement pour le temps que tu as accordé à notre échange.
Merci à toi.
Fait de voyages et de rencontres, le parcours de Temponok est riche de sa sensibilité traduite par des vanités oniriques. Véritable synthèse de sa conception du monde et de son histoire, ces memento mori, faits d'amas de bulles, révèlent dans une incroyable douceur la brutalité d'une vérité inéluctable. Un jour, nous ne serons plus. Mais c'est peut-être justement là que réside la beauté de son œuvre. Comme une bulle qui se forme, flotte et disparaît, elle nous rappelle que la vie tient à peu de choses. À un souffle, à un instant suspendu. Son dernier memento mori de l'année est visible sur le 47e mur d'Épinal, au 46 bis rue de la Plomberie, depuis le 7 novembre 2025 et jusqu'au 3 mars 2026.